Voilà, nous retrouvons Jean-Stéphane Bron entre deux avant-premières. Quel homme sollicité et vraiment quelle célébrité. Alors, nous en étions avec justement tout à l'heure les différents intervenants, les scientifiques que l'on rencontrait à travers les différents chapitres de votre film, 5 nouvelles du cerveau. Et nous étions arrêtés à ce monsieur qui nous faisait voyager grâce à votre caméra entre Munich et Venise. C'était très impressionnant de voir qu'il arrivait, ça provoquait beaucoup d'émotions, en tout cas lors de la vision de presse, de voir qu'il arrivait à faire communiquer un jeune père de famille avec son enfant qui doit avoir 2-3 ans.
C'est ça, peut-être 4 ans, oui, maintenant, 5 ans. Oui, bah, c'est, bah, disons, moi j'étais moi-même très saisi, quoi, très impressionné sur le moment. Parce qu'on a filmé une interview où donc le professeur Birnbaumer pose des questions et il répond donc grâce à une machine, donc c'est son cerveau qui parle littéralement. Et on a demandé s'il était d'accord qu'on filme. Et donc c'était un moment, évidemment, s'il avait dit non, on aurait arrêté. Et il a accepté donc qu'on soit présent et que cette interview, au fond, qui se passe, par professeur interposé, quoi, et par machine interposée, surtout.
Oui, c'est très impressionnant. Est-ce qu'après, hors caméra, vous lui avez raconté comment s'est déroulée la scène, justement, parce que lui, il sait ce qu'il a échangé, mais l'émotion que ça a pu susciter, ne serait-ce qu'à sa compagne?
Oui, ben nous, on était, disons, il était au tout début en fait de ces échanges, donc déjà on a assisté presque en direct au moment où on était au Peace Center à Genève quand ils ont eu les premiers mots qui sont arrivés, les premières phrases qui ont été formées, et puis après on sait qu'aujourd'hui il parle pas mal, il s'exprime. Et il n'y a peut-être plus besoin du technicien qui vient. Et effectivement, quand il a posé cette question à son fils, est-ce que tu voudrais regarder un film avec moi, j'ai trouvé ça c'était très impressionnant.
Oui, c'est un moment très poignant. Alors, le chapitre suivant, on rencontre à Genève David Rudolph qui nous fait une démonstration comment insuffler la vie à de petits robots. Et puis tout d'un coup, les robots modifient leur comportement. En même temps, on le questionne, puisque vous le questionnez, puisqu'il est sur le point de devenir père. Donc, il y a aussi la problématique de ce qu'on peut transmettre.
Ben, c'est un peu un thème, on va dire, qui traverse tout le film. C'est la question du dialogue ou de la transmission de ce qu'on laisse, de l'avenir, quoi. Hein, donc, moi, je trouvais très beau qu'il accepte aussi... Qu'on le filme dans ce moment, il va assister à une échographie, il découvre qu'il va avoir un fils. Et donc voilà, effectivement, c'est un chercheur qui travaille dans le domaine de la conscience artificielle, avec l'idée effectivement de se dire, est-ce qu'on pourrait insuffler la vie dans la machine? Qu'est-ce que c'est l'esprit? Et donc, je trouvais aussi très humain au fond de le saisir en ce moment où à la fois il est ce chercheur et en même temps il est ce père en devenir, quoi. Et encore une fois, c'était toujours l'idée de, oui, à la fois le futur, la transmission, qu'est-ce que c'est la vie, et ces grandes questions qui s'incarnent vraiment dans les avec ces personnages.
Et justement, le chapitre suivant, c'est la seule femme en fait du film, Aude Billard, qui est sur les rivages du Léman et qui s'intéresse à pouvoir remplacer le travail humain, en particulier mécanique, répétitif, comme dans les usines pour les ouvriers. Là, elle fait appel à un apprenti en horlogerie et elle essaye justement de pouvoir remplacer l'humain par la machine pour ce genre de travaux minutieux et surtout très répétitifs. En même temps, on apprend à sa rencontre qu'elle a refusé de travailler avec les BAFAM, Facebook, Google, compagnie. Donc, elle se met des limites quand même éthiques.
Exactement, c'est vraiment quelqu'un dans le domaine de la recherche publique, qui est financé par des fonds publics, et qui a, C'est quelqu'un qui, voilà, la science, c'est comprendre. Donc, je veux travailler avec des algorithmes que je peux tracer, dont je peux comprendre mathématiquement comment ils arrivent au résultat, etc., etc. Donc, bon, ce qui m'a vraiment touché avec elle, c'est vraiment comment elle se pose la question, elle renverse la question. Elle dit, est-ce que le problème, c'est la machine, ou est-ce que c'est le problème que on nous a transformé en machine, quoi, à travers le travail répétitif, terrible, que des machines pourraient faire très bien, et inventer à partir de là un monde. Enfin, on voit bien comme à partir de cette vision, c'est le point de départ encore d'un autre monde possible. Le travail, ces travaux-là, en tout cas, pourraient être remplacés, libéreraient un autre temps, évidemment, qui pourrait être utilisé à d'autres choses.
Mais on pense aussi au temps moderne de Chaplin.
Pardon ?
Elle nous fait penser un peu au temps moderne de Chaplin, justement. Il y a cette ambivalence.
C'est ambivalent, mais en même temps, je pense qu'elle est très sincère dans son idée qu'elle travaille à des machines qui remplaceraient le travail qui nous a rendu machine, quoi. C'est vraiment de dire, ben voilà, ces choses-là qui sont pénibles, qui sont pas du tout... Elle a cette belle phrase où elle dit, mais on n'utilise pas le cerveau humain pour ce qu'il sait faire, pour tout le génie qu'il a. Et on se sert des êtres humains pour leur faire faire des choses qui sont pas du tout intelligentes. On pourrait libérer ce temps. Et donc, il y a dans cette dernière histoire, pour moi, quelque chose qui est une promesse où la machine n'est pas du tout, qui est pas le concurrent, mais qui au contraire remplace ce qu'il y a de, voilà, qui remplace, mais non pas l'humain, mais le travail qui nous a déshumanisés, quoi.
Ce qui permettrait de justement valoriser les capacités humaines qui ne sont pas forcément mises à profit.
Exactement. Je pense que derrière son point de vue, c'est ça qu'elle sous-tend.
Alors, Jean-Stéphane, tous ces points de vue, on comprend qu'ils sont parfois divergents. Il y a celui qui est plus humaniste ou même religieux d'ailleurs, ce qui est étonnant pour un scientifique. Et il y a ceux qui sont vraiment extrêmement scientifiques, comme Alexandre Bouget, et voire techniciste. La multiplicité et la variété, surtout de ces points de vue, permet aux spectateurs de totalement se faire leur propre opinion, d'avoir leur propre idée. Vous ne vous impliquez pas, vous les laissez libres de se faire leur opinion.
Je m'implique, disons... Pour moi, il y a une sorte de discours, mais qui est un peu entre les images, ou entre les histoires, ou entre les propos, dans l'arc profond du film. On termine avec Aude Billard, et surtout, on termine avec les questions du fils au père, quoi. Donc, on fait quand même un chemin de compréhension. Donc, on est amené à se poser beaucoup de questions. Et en même temps, avec ce jeune chercheur qui est plein de questions morales, éthiques, politiques, et on est avec lui, quoi. Donc je dirais ce chemin là qu'il voulait faire faire au spectateur. Dans ce sens là c'est pas neutre, mais effectivement il y a une grande liberté pour que chacun puisse s'approprier les images aussi, se confronter à des discours, hein. Je trouve que c'est toujours intéressant de faire face à des discours. Moi, j'ai trouvé hyper intéressant de faire face au discours d'Alexandre Pouget, parce qu'il m'a aussi ébranlé dans ma façon de voir, ou sur des questions que je ne m'étais pas posées sur le cerveau, sur l'esprit, sur la conscience, etc.
Oui, il ébranle, et puis en même temps, il déstabilise nos convictions. Il chamboule un petit peu ce qu'on croyait acquis. Et en même temps, après, son fils vient mettre quelques balises le long de ses propos. Là, on est amené, avec justement Pouget, à imaginer que le monde de la robotique et des machines et de la technique pourrait arriver à quasiment éradiquer l'humanité. Et là, ça fait penser à 2001, l'Odyssée de l'espace, où les robots prennent commande du vaisseau spatial. Et là, c'est vraiment la fin de l'humanité. C'est...
Bah, c'est intéressant que vous citiez ce film parce que, au fond, moi, ce que j'ai pensé, peut-être c'est aussi pour moi une manière de voilà. Moi, j'ai pensé vraiment que je filmais un imaginaire, quoi. Je filmais à la fois le travail scientifique, l'approche scientifique, mais que je filmais aussi des imaginaires, des façons de voir la vie d'hommes qui sont habités au fond par eux-mêmes, par des mythes, par toutes sortes d'images du futur. Ils ont lu de la science-fiction tous, ils ont un rapport à ça, et c'est aussi fascinant de voir que la science, elle est à la fois la science qui veut comprendre, qui avance de façon rationnelle, et voilà, ce désir absolu de comprendre qui nous sommes, le monde, etc. Et en même temps, elle est habitée par toutes sortes d'imaginaires, de l'idéologie, de la politique et des visions de l'homme qui sont souvent très différentes, quoi. Donc c'était un peu dessiner des chemins possibles, quoi. Voilà, voilà un peu l'idée.
Oui, là, il est question d'éthique, il est question de se mettre aussi quand même quelques limites morales. Et justement, l'attitude de Aude Billard par rapport aux sollicitations assez récurrentes, justement, des BAFAM, ça montre qu'il faut quand même savoir aussi garder la tête froide. Il ne faut pas non plus totalement livrer toutes ces innovations techniques à n'importe qui.
Il y a cette idée-là, je pense, oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'elle m'a intéressé beaucoup. Donc, ouais, c'était évidemment. Elle a sa place dans ce récit ou dans ce voyage, elle le conclut. Enfin, pas tout à fait, mais enfin, elle est. Ben, justement, parce que tout à coup, on revient un peu sur Terre avec elle, quoi. On est parti très loin avec Rudro pour l'univers. Et puis, on revient sur Terre avec c'est des expériences qu'elle fait, qu'elle essayait de comprendre qu'est-ce que c'est la main, qu'est-ce que c'est le geste, qu'est-ce que c'est deux mains en synchronie, comment ça, qu'est-ce qui se passe. Et donc, moi, j'ai trouvé tout ça très, très, très beau, quoi, très, très, très bouleversant.
Oui, il y a même une poésie.
C'est ça.
Et après avoir rencontré tous ces scientifiques, ces chercheurs, est-ce que votre propre opinion a beaucoup changé? Est-ce que vous avez aussi peut-être modifié vos convictions?
Ah, je pense qu'il y a plein de questions que je ne m'étais jamais vraiment posées, donc j'ai dû y faire face aussi en me disant, bon, alors toi, qu'est-ce que tu penses? Quelle est ta vision du cerveau? Parce que ce n'est pas du tout le but que je... Finalement, voilà, moi, j'ai un avis, et voilà, je peux m'entendre partager comme ça hors film, parce que... Mais disons, c'était pas, pour moi, il n'y avait aucun intérêt à dire, bon, bah, finalement, j'ai compris ça, parce que je suis toujours plein de doutes et de questions et de paradoxes. Mais disons, j'aime bien l'idée, en tout cas, comme exercice de pensée, de se dire que, voilà, tout est là, tout ce qu'on perçoit et ressent est là, et que quand quand ça s'arrêtera, quand la mort arrivera... Je partageais assez l'idée de Corse, de dire, bon, ben, voilà, ça s'arrête, quoi, la conscience, c'est quelque chose qui est lié à cette, et qui a pas, et ça presque, c'est quelque chose qui me rassure dans cette idée, que voilà, ça s'arrête quand le cerveau s'arrête, quoi. J'aime bien me dire que bon, voilà, ben, c'est terminé, j'ai pas l'angoisse de me dire qu'il y a un truc après.
Bon, vous pourrez faire des films dans l'au-delà, hein, tant qu'à faire. Et vous avez choisi de terminer avec une très belle...
Je vais te voir.
Alors on fait vite. Juste la fin, la grotte de Lascaux. C'est un choix.
Pour moi, Lascaux, c'était vraiment l'idée que... voilà, c'est les premières traces où on se projette, quoi. C'est-à-dire qu'on ne fait pas juste des choses pour fabriquer, pour se nourrir, etc. En tout cas, c'est là. C'est quelque chose qui surgit, qui est... la projection de soi à travers une forme, on voit même presque les mouvements qui rappellent l'idée que voilà, d'essayer de capturer le mouvement à travers le dessin. Et pour moi, c'est vraiment comme les premiers textes de philosophie, quoi, la première fois qu'on les êtres humains réfléchissent sur, laissent une trace de quelque chose qui est symbolique, qui est vraiment l'imaginaire aussi, quoi. Donc, terminer là, c'est aussi de dire il y a une sorte de chose qui est irréductible à nous, c'est l'art. Désir au fond de se représenter, de représenter le monde de forme symbolique.
Merci beaucoup, Jean-Stéphane Bron. On sait que vous étiez à Bienne, on espère que ça s'est bien passé. Et là, vous êtes à Berne. Donc, tout le meilleur comme échange avec le public. Pour l'instant,
Merci
vous êtes
beaucoup.
content de ces échanges, n'est-ce pas?
Oui, franchement, surtout avec j'ai eu plusieurs projections avec des gens très jeunes. Pardonnez-moi, c'est un lieu un peu bruyant, mais avec des gens très jeunes, de 14, 15, 16, 17 ans, et c'était très passionnant parce que c'est le monde dans lequel ils vivent, dans lequel ils vont vivre, et tout plein de questions. Et comme ils ont vu beaucoup de séries de science-fiction, que tout ça, c'est des choses, des outils, même des choses qu'ils connaissent. Donc, les dialogues étaient assez vraiment passionnants avec eux.
Enrichissant. Eh bien, on vous souhaite que ça le soit encore ce soir à Berne. Merci beaucoup, Jean-Stéphane, et bon
Merci.
succès pour ce film. À bientôt. Merci.
Merci, au revoir,
Au
à bientôt.
revoir.